Radio Kapi. Oh, Kapi. Présenté par Jocelyne Moussaou-Ponder.
Eugène Diomi Ndongala bientôt libre, mais cela sous certaines conditions. Il ne devra notamment pas habiter près d'une école des filles. L'annonce est du ministre de la Justice sur la radio Top Congo. Des coups de feu attribués à des bandits armés entendus dans plusieurs quartiers de Lubumbashi dans la nuit de mardi. Ces bandits étaient en uniforme de la police, rapporte des témoins. Luboukou Simon Anglébert, porte-parole adjoint au HCR, est notre invité ce matin. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés procède depuis quelques jours à la relocalisation des réfugiés sud-soudanais près d'Arou, en Ituri. Bonjour à tous. Le ministre de la Justice a annoncé hier mardi la libération dans 48 heures de l'opposant Eugène Diomi Ndongala sous certaines conditions. Alexis Tambouemamba l'a déclaré sur les ondes de la radio Top Congo. Parmi ces conditions, il indique notamment que Eugène Diomi Ndongala ne devrait pas sortir de la ville de Kinshasa, mais aussi ne devrait pas habiter à moins de 500 mètres d'une école des jeunes filles. En réaction, l'avocat de Diomi Ndongala s'est dit satisfait de cette annonce. Cependant, maître Georges Kahiamba affirme que les dites conditions seront examinées et des options levées, et dès qu'il sera en possession de l'arrêté ministériel libérant son client. L'écoute au micro d'Alain Rung.
Nous pensons que cette fois-ci, Diomi Ndongala va sortir comme le ministre l'a annoncé. Nous espérons qu'il va tenir sa parole, d'autant plus que le président de la République l'a déjà fait publiquement à travers son directeur de cabinet. Lui-même a déjà reçu des instructions comme il l'a reconnu. Donc, nous pensons qu'il ne peut plus y avoir d'obstacles et que d'ici jeudi, Diomi Ndongala va quitter la prison. Nous l'avons suivi seulement sur les voies des ondes. Il n'a pas encore pris contact avec nous. Son cabinet ne nous a pas contactés, ce qui fait que nous ne connaissons pas les contenus exacts de l'arrêté, ou encore des conditions qu'il a évoquées. À première vue, il s'agit de conditions que nous jugeons inacceptables, mais nous n'entendons pas les discuter maintenant. Lorsque Diomi Ndongala sera en liberté, nous allons les examiner et éventuellement nous les contesterons devant les cours et tribunaux compétents.
Politique encore, le ministre en charge des relations avec le Parlement demande au président de la République de saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 112 qui demande aux assemblées provinciales de déposer le règlement intérieur à la Haute Cour pour avis de conformité. Lisanga Bonganga s'exprimait ainsi hier mardi au cours d'un point de presse ici à Kinshasa en réaction aux décisions prises par la réunion interinstitutionnelle lundi dernier. Lisanga Bonganga au micro de Paul Matendo.
Nous avons réfléchi pour voir s'ils ont respecté la conformité, c'est-à-dire au niveau de chaque province, quand ils ont adopté, ils ont déposé ça au niveau des cours d'appel. Est-ce qu'ils ont respecté la procédure? Est-ce qu'ils ont respecté les délais? Avant qu'on puisse avoir l'élection des membres du bureau, est-ce que les cours d'appel ont donné leur avis de conformité? Nous demandons au président de la République de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation, bien sûr, de cet article 112. À ce moment-là, nous allons maintenant lui donner le tableau de toutes les provinces. Tel jour, le règlement intérieur a été adopté. Et quel jour ça a été envoyé à la Cour d'appel? Et quel jour la Cour d'appel a envoyé la réponse pour la conformité?
La décision de l'interinstitutionnel prise lundi dernier continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle du parti Orange. Fiondo Doboni, son président, propose au président de la République, Félix Tshisekedi, de nommer les gouverneurs des provinces en attendant les élections qui devraient intervenir, selon lui, après la révision de la loi électorale par l'Assemblée nationale. Il a déclaré hier mardi au cours d'un point de presse ici à Kinshasa, Fiondo Doboni, au micro de Paul Matendo.
Au stade actuel, à l'issue de cette décision, une fois que l'Assemblée nationale est mise en place, on fait la révision de la loi électorale. C'est à ces moments-là que nous allons reprendre les élections. Mais entre-temps, aujourd'hui, que le chef de l'État nomme le gouverneur. Donc on a vu, quand il y a eu la création de nouvelles provinces, le chef de l'État ancien a nommé des gouverneurs qu'on a appelés les commissaires généraux. Et le chef de l'État peut nommer également le gouverneur en attendant la révision de la loi électorale. Et pour le Sénat reste comme tel. Et puis on va reprendre les élections au premier degré pour avoir les sénateurs. Ça, c'est la proposition. proposition que nous faisons pour crédibiliser toutes ces institutions-là. Parce qu'au stade actuel, le niveau de la corruption est tel que toutes ces institutions vont avoir aucune crédibilité.
Deuxième titre de ce journal. Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi dans la nuit de lundi à hier mardi. Du golfe Maïcha en passant par Kalebuka, Katuba et Ewabora, la population a vécu une nuit tourmentée par des tirs. Ces derniers seraient attribués aux bandits lors de cambriolages. D'après certains témoignages, ces bandits armés étaient en uniforme de la police. Jean Gandou nous en dit plus.
Les habitants du quartier Golf Maïcha témoignent que les coups de feu ont été entendus aux environs de 1h du matin. Ici, les bandits ont tenté de pénétrer par effraction chez un ex-agent de la GKMIN en tirant à l'air. Mais la police de garde a réagi aussi par des tirs. Les éléments de la police en patrouille s'en sont aussi mêlés. Les bandits ont réussi à s'échapper. Ce tir ont été aussi entendus aux environs du quartier Kaloubwe Double Poteau. Un peu plus loin de là, sur la route de contournement, c'était le même spectacle. Au camp GKMIN, précisément au quartier Mampala, la population a eu droit à un concert de crépitement des balles. Le quartier Kassapa et Ewabora n'était pas en reste. Là, les bandits ont réussi à emporter plusieurs biens. La police ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. Le maire de Lubumbashi indique pour sa part que les services des renseignements mènent des enquêtes sur ce qui s'est réellement passé avant de se prononcer, rappelant que ce lundi, le général de la police a, au cours d'une parade, donné l'ordre à ses éléments de traquer tous les bandits et autres inciviques de grand chemin qui sèment la terreur à Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au chapitre santé, sachez qu'une importante délégation des humanitaires constituée des responsables de l'UNICEF, OCHA, OMS, CICR, UNFPA et du ministre national de la Santé est arrivée hier mardi à Goma, conduite par la directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Henrietta Fort. La délégation déclare être dans la région pour soutenir les interventions, dont la réponse humanitaire, particulièrement dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Par la même occasion, ces humanitaires ont visité l'hôpital Africa de Goma qui prend en charge les survivants des violences sexuelles. Denise Loukesso, reportage.
Sur place à Goma, la délégation conduite par Henrietta Fort, directrice exécutive de l'UNICEF, a visité l'hôpital Île Africa, notamment dans ses volets prise en charge des survivants des violences sexuelles et l'encadrement des enfants défavorisés. À l'issue de la visite guidée, Henrietta Fort dit apprécier le travail que réalise cet hôpital en faveur de ses victimes. Nous sommes venus pour nous rendre compte du bon travail que cette institution remarquable effectue à travers l'assistance qu'elle apporte aux femmes. Elle accorde une nouvelle dignité à travers la santé rétablie des survivantes. C'est très important. Le responsable de Île Africa dit être honoré et motivé par cette grande visite qui traduit aux yeux du monde de l'importance du travail que son hôpital réalise en faveur des communautés.
On était particulièrement touché par le travail que nous faisons avec l'encadrement des enfants. Elle nous a encouragés à continuer à prendre soin de ses enfants. Et le deuxième aspect qu'elle a visité, c'était le travail que nous faisons avec les survivants des violences sexuelles. Elle a vraiment été touchée par ce qu'elle a vu.
Après cette visite, la délégation s'est rendue à Beni. Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Et pendant ce temps, en Ituri, l'ONG internationale Médecins sans frontières suisse suspend momentanément ses activités de riposte contre Ebola à Biakato dans les territoires de Mambasa. Le chef de la collectivité des Babila Babombi, Selemani Mbida, a déclaré hier mardi que c'est depuis le week-end dernier que cette ONG a rappelé tous ses agents. Un responsable de MSF que Radio Okapi a contacté justifie cela par des raisons sécuritaires. Le député provincial Omer Kaindo, élu de Mambasa, confirme que des tracts ont été ramassés à Biakato, faisant état d'une probable attaque des installations de MSF. Il appelle les autorités à sécuriser la région et à encourager ainsi MSF à y retourner pour sauver la population de l'épidémie d'Ebola. Expropriation des chefs des terres, surexploitation des forêts par les industriels, surexploitation des autochtones par les opérateurs miniers. Telles sont entre autres les matières qui sont au centre de la 8e session du Comité national de pilotage du projet d'appui aux peuples autochtones. Cette session qui se tient ici à Kinshasa depuis hier réunit des autochtones venus des 19 territoires de la RDC. Selon Dorothée Lisenga, responsable des questions genre de ce comité, l'objectif de cette rencontre est de trouver des solutions aux défis majeurs de leur organisation. Dorothée Lisenga au micro de Paul Matendo.
Nous avons d'abord le problème des terres, parce que la terre, c'est notre mère nourricière. Les autochtones sont en train de connaître le problème des terres, qui sont soit expropriées pour cause d'utilité publique, Vous voyez, les autochtones qui sont au niveau de Kausbiega. Si vous allez à Kabare, dans le parc là-bas, là où les autochtones ont habité, ils étaient expulsés de ces terres-là et ils sont en train d'errer sans terre. Tous deux voulons parler des forêts et des ressources naturelles. Nous n'avons pas bradé nos forêts, nous n'avons pas vendu, mais il y a maintenant la surexploitation de nos forêts maintenant. Et on regarde le partage des bénéfices. Où sont les bénéfices pour les autochtones? Là où il y a des écoles, là où fréquentent les autochtones, les enfants autochtones fréquentent les études à même les sols. Dans les prises de décisions qui concernent cette exploitation-là, quand on est en train de prendre les décisions, les autochtones doivent être là.
L'invité. Le beaucoup Simon Englebert est notre invité. Il est porte-parole adjoint au HCR. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés procède depuis quelques jours à la relocalisation des réfugiés sud-soudanais de la frontière au site des Biringui à 81 km d'Arou en Ituri. Simon Loubukou, on parle avec Jean-Pierre Elali Koko.
Loubukou Simon Englebert, bonjour.
Bonjour.
Le HCR relocalise le réfugié sud-soudanais de la frontière à Biringui. Biringui, c'est à 80 km d'Arou. Nous sommes là en Ituri. Alors, comment se passe l'opération sur le terrain?
C'est depuis mi-février 2019 que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, appuie le gouvernement congolais dans cette opération de relocalisation des réfugiés sud-soudanais qui se trouve au niveau de la frontière entre le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri. À ce jour, plus de 1200 réfugiés sud-soudanais ont été relocalisés sur le site de Biringui. Il faut dire que cette opération se fait à la demande des réfugiés qui ont exprimé le souhait de se trouver dans une zone où ils seront plus en sécurité et où ils vont retrouver des parents et des connaissances. Il faut dire qu'il y a ceux qui sont déjà au niveau de Biringui depuis longtemps. De se retrouver dans une zone où ils ont une certaine garantie de stabilité et d'assistance. Le HCR assiste les réfugiés au niveau de ce site. Avant d'organiser le transfert, il y a une équipe avec les services étatiques, la DGM, l'ANER, la police et les FRDC qui travaillent avec les chefs de la chefferie Kakwa pour procéder au screening sécuritaire, c'est-à-dire s'assurer que les sites sont des sites civils. Et après screening, les réfugiés sont transportés au niveau de Arou, là où nous avons un centre de transit, pour leur enregistrement et c'est seulement après qu'ils vont au niveau du site de Biri.
Vous avez dit tout à l'heure que cette opération de relocalisation s'est faite à la demande des réfugiés eux-mêmes, mais selon les rapporteurs de Radio Capi qui s'est rendu sur le lieu, sur 30 000 réfugiés sud-soudanais, seuls 20% acceptent cette relocalisation. Comment vous pouvez expliquer cette réticence des réfugiés?
Bon, avant d'arriver là, il faut souligner ici que l'opération de relocalisation continue. Chaque semaine, environ 150 réfugiés expriment ce souhait, cette volonté d'être relocalisé à Biringui. À Biringui, le HCR et les autorités proposent une assistance qui permet en fait aux réfugiés et à la communauté locale d'accéder aux services de base. Il y a parmi les réfugiés sud-soudanais ceux qui sont arrivés en 2016 et qui se sont installés de manière spontanée dans la zone nord de la frontière de l'Ituri.
C'est ceux qui résistent en fait.
Ceux-là se sont installés contre la volonté du gouvernement congolais. Et je dirais plutôt qu'ils hésitent. Ils hésitent encore à être relocalisés sur le site de Biringui. Il y a plusieurs raisons. Certains évoquent des facteurs historiques ou culturels. Il y a ceux qui ont trouvé à partir des interventions de certains partenaires de quoi s'installer au niveau de cette frontière.
Quelles sont les difficultés que les HCR rencontrent actuellement pour la prise en charge de ces réfugiés, notamment des sites de Biringui, vous l'avez dit, et comment ils essayent de résoudre ces difficultés-là?
Les difficultés d'abord pour organiser la relocalisation, c'est-à-dire il fallait d'abord sensibiliser les réfugiés pour qu'ils acceptent et adhèrent à cela. Et puis il y a le problème des distances. Les réfugiés vivent dans plusieurs localités qui sont très, très éloignées les unes des autres. Alors, pour contrer la difficulté de sensibilisation, les autorités congolaises, avec les chefs traditionnels, ont organisé des campagnes de sensibilisation. Les réfugiés puissent avoir l'information. Et puis, le 4 février, il y a eu une visite Goency. Donc, ça permet aux réfugiés d'aller et de voir la vie sur les sites de Biringui et de prendre une décision par rapport à ce qu'ils ont vu sur place. Quant à la difficulté de distance au niveau du HCR, nous avons essayé d'avoir un point de rassemblement au niveau de Dubaï, là où les réfugiés sont rassemblés avant de les emmener au centre de transit à Aru.
Anglebert, pour terminer, est-ce qu'il y a des réfugiés qui sont reçus dans des familles d'accueil?
Les réfugiés vivent ensemble avec la communauté hôte.
Comment se passe alors la cohabitation?
Bon, il faut dire que l'environnement est favorable. Les réfugiés et les autochtones n'ont pas de problème. Ils vivent ensemble. Il y a même des projets qui pourront les mettre ensemble pour le développement des deux communautés.
Anglebert, je vous remercie.
Merci à vous et à Radio Okapi.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.